15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations. On essaye en tout cas de vous faire du bien ici en direct tous les jours. Il est à mes côtés tous les jours, donc du lundi au vendredi. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au sel. Il est indispensable à notre bonne santé dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais on le sait, on en consomme malgré tout beaucoup trop de sel, sans le savoir parfois. Eh bien, avec notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman, nous allons apprendre à le démasquer dans les produits que nous mangeons au quotidien. Et puis il nous donnera aussi quelques astuces culinaires, vous allez voir, qui permettent de se passer de la salière. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'entorse du genou. Pour ceux qui ont la chance de partir au sport d'hiver, attention, c'est un bobo assez fréquent, Jimmy va tout nous expliquer. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va vous parler de la ponction lombaire, un geste technique qui peut faire trembler quand on doit le subir. Eh bien, on va vous expliquer comment cela se passe et bien sûr à quoi ça sert. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de masturbation. Pourquoi certaines personnes y trouvent parfois plus de plaisir que dans les relations sexuelles avec leur conjoint? Elle nous donnera quelques explications.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Fanny, 37 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy Mohamed. Je vous appelle parce que j'ai arrêté de fumer depuis le mois sans tabac et je suis très contente de ça. En revanche, depuis je dors très mal et je voulais savoir si c'était lié.
Alors Jimmy, c'est vrai que je confirme, hein, pour moi aussi j'ai arrêté de fumer au mois de novembre. Les auditeurs qui écoutent souvent l'émission le savent parce que j'en parle souvent. C'est pas que je fais une fixette, mais je peux le dire aussi, il y a beaucoup de bénéfices à arrêter de fumer. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai ressenti ça aussi, il y a un peu des difficultés d'endormissement, c'est fréquent ça?
Oui, c'est plutôt très fréquent. Quand on arrête de fumer, on sait qu'on va avoir des troubles du sommeil à divers degrés. Alors on dort pas bien, on peut se réveiller au cours de la nuit ou faire des rêves un peu bizarres, des rêves parfois violents, parfois érotique, je ne sais pas si vous confirmez
non,
Mélanie.
Non, c'était pas ça. Moi, je rêvais que je fumais, tout simplement.
Mais c'est des symptômes finalement plutôt normaux et ça fait partie des signes de sevrage. Rassurez-vous, la plupart du temps, ces symptômes sont transitoires.
C'est vrai, je dors comme un bébé maintenant. Alors, les insomnies, c'est vrai que ça fait partie vraiment du sevrage tabagique. Donc, c'est vraiment normal, hein, c'est physiologique. Hein,
oui, c'est lié au manque de tabac et plus particulièrement le manque de nicotine. Et par conséquent, on peut pallier ces troubles en travers des substituts, qu'ils soient sous forme de patch ou de gomme. Ça peut durer quelques semaines, raison pour laquelle on les prescrit, ces patchs et ces gommes, durant au moins 12 semaines.
Ou la e-cigarette, hein, parce que c'est aussi un outil de sevrage tabagique, bien
très
sûr.
Très efficace. Néanmoins, n'ayez pas peur, si vous devez prendre plus de nicotine ou pendant plus longtemps, c'est absolument pas un problème.
Alors Jimmy, vous n'avez pas, vous, quelques astuces justement pour limiter un peu quand même ces problèmes de sommeil au début du sevrage? Moi, je sais que je faisais un petit peu de méditation au début, avant de me coucher, ça a aidé, en tout cas j'ai eu l'impression.
Oui, pourquoi pas. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site de Tabac Info Service où vous allez trouver quelques conseils qu'on va vous donner. D'abord, essayez de repérer votre heure d'endormissement, c'est-à-dire quand vous avez les yeux qui picotent, que vous commencez à bâiller, vous dites « tiens, j'ai un petit coup de froid à ce moment-là, il ne faut pas lutter, il faut aller se coucher à ce moment-là ». Essayez de ne pas louper justement ce cycle d'endormissement.
Le car, train du sommeil, on
oui,
dit
si
pour les
le
enfants.
Si vous le loupez, il faudra prendre le prochain qui arrive 1h30, 2h après. Lorsque vous couchez, il faut essayer de se lever et de se coucher aux mêmes heures. Si vous faites de grands écarts entre les deux, ça perturbe certains signaux envoyés au niveau du cerveau. Et à ce moment-là, vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Essayez de diminuer votre activité physique dans l'heure qui précède le coucher. Manger plus léger, éviter les stimulants comme l'alcool, les repas gras, et on ne surchauffe pas une pièce.
Parfois c'est
19,
l'erreur que font les
degrés.
Gens, effectivement, et même 18, parfois ça suffit, ça fait un peu frais, mais bon, quand on est sous la couette, tout va bien. Merci beaucoup Jimmy. Alors si malgré tous ces conseils, votre sommeil reste perturbé, vous pouvez demander conseil à un spécialiste de Tabac Info Service, ça se passe au 39 89, ou encore à votre médecin traitant. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est Camille, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'aimerais avoir votre avis sur les bicarbonates. Ma mère m'a toujours dit que c'était super pour garder les dents blanches, mais je suis allée voir mon dentiste qui me le déconseille. Du coup, je ne sais plus quoi faire. C'est quoi votre avis, s'il vous plaît?
Alors Jimmy, on va parler un peu du bicarbonate, vendu sous la forme de poudre le plus souvent. Alors c'est vrai que certains vendent ses mérites dans tout plein de choses, hein, les dents, le ménage, tout ce qu'on veut. Ça pousserait désinfectant, purifiant, donc dents blanches. Rappelez-nous d'abord juste ce que c'est que vraiment le bicarbonate en soi.
Alors c'est le bicarbonate de sodium ou le bicarbonate de soude. Alors c'est vrai que c'est bien pour les adeptes des produits naturels en santé ou surtout de nettoyage au niveau de la maison. C'est un peu la poudre miracle qu'il faut avoir. Vous la trouvez soit à la pharmacie, soit en supermarché sous forme de poudre minérale 100% naturelle. C'est un produit un peu magique, mais plutôt pour nettoyer les toilettes que nettoyer les dents.
D'accord, alors les dents justement pour les blanchir, je crois que finalement les dentistes, comme le disait cette auditrice, le déconseillent, hein, ils ne sont pas très friands de ce remède de grand-mère.
Et ils le déconseillent fortement parce que éliminer les taches qui consistent à, pour dissoudre le tartre, eh ben, ça rend les dents plus blanches, certes, mais vous allez éliminer l'émail. Et l'émail, c'est ce qui protège votre dent et vous allez l'éliminer de façon irréversible.
Ça ne repousse jamais l'émail. Hein,
exactement. Donc vous allez à ce moment-là abîmer vos dents. Et en plus, le fait de prendre du bicarbonate neutralise l'acidité de la bouche, raison pour laquelle vous pouvez ensuite faire des mycoses parce que vous allez perturber votre flore buccale.
Bon, et pour le reste, alors pour les dents, on a dit no way, on ne l'utilise pas, mais pour le reste, c'est une poudre magique. Je crois que vous en avez chez vous pour faire le ménage.
Exactement, c'est une poudre magique, ça enlève des taches.
C'est un produit naturel pour la maison.
Exactement, c'est bien plus écologique puisque finalement on peut le réutiliser, ça coûte moins cher. Et puis, ça évite les formules antibactériennes qu'on peut trouver. Quand ça dit, ça sélectionne, détruit 99,9% des bactéries, bah, ça veut dire qu'on sélectionne les bactéries résistantes lorsqu'on achète les produits industriels. Donc c'est un produit naturel et efficace pour faire le ménage.
Pour finir rapidement, pour la santé, pour d'autres choses, je crois qu'il y en a qui le vendent pour les aphtes, pour,
bon, oui, pour les aphtes, pour en désinfecter. Bouche, ouais. Chez les bébés, les médecins font des préparations pour les gingivostomatites aiguës lorsqu'on a plein de lésions buccales dans la bouche.
Le muguet, non, peut-être un peu.
Alors le muguet, on fait un antifongique plutôt, mais sur les gingivostomatites, ça peut aider. Le médecin fait une petite préparation que le pharmacien prépare et ça peut calmer les douleurs.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Camille qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'entorse du genou. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman, avec qui nous allons tout vous dire sur l'intérêt et les dangers du sel dans votre assiette. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, c'est la période des vacances scolaires et la saison du ski pour ceux qui ont la chance de partir. Et aujourd'hui, donc, vous nous parlez d'un accident fréquent au sport d'hiver, l'entorse du genou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une entorse?
Alors l'entorse du genou, c'est une lésion des ligaments du genou.
Ah, qui tiens, survient... c'est bizarre, je pensais que c'était au poignet. Ouais.
Exactement, qui survient après un mouvement anormal de la jambe, parfois un traumatisme direct. Alors au niveau du genou, on a plusieurs ligaments. On a des ligaments latéraux qui sont donc sur le côté.
Moi je connais les croisés parce que je regarde
exactement.
Le foot.
Les ligaments croisés, antérieurs et postérieurs, constituent ce qu'on appelle le pivot. Ils forment une forme de cravate pour maintenir l'articulation du genou. Et on sait que les entorses du genou, c'est près d'un tiers des accidents de ski alpin.
Ah oui, quand même.
Les mauvais réglages des fixations représentent plus de 40% des entorses du genou. L'absence d'activité physique aussi un facteur important d'entorse. Et puis, il faut rappeler qu'on a trois grades d'entorse. L'entorse bénigne, c'est finalement un ligament qui serait un peu étiré. L'entorse moyenne, lorsque le ligament est déchiré de façon partielle. Et l'entorse grave, c'est celle qui consiste à un ligament qui est totalement rompu.
Bon, comment on évite ça? Parce que ça n'a pas l'air sympa. Hein.
Alors, c'est vrai que ça peut être un peu tard, mais il faut se préparer lorsqu'on va au ski. Et préparer notamment à avoir une activité physique dans les semaines qui précèdent. L'idéal serait d'avoir au moins une marche active tous les jours. Mmh. Si possible, 30 à 45 minutes de jogging trois fois par semaine. La natation...
Ouh, vous y allez fort là. Oui, trois fois par semaine, waouh.
Et oui, c'est pour éviter les entorses. Et puis surtout, contrôler les fixations de vos chaussures auprès d'un professionnel.
Et comment on sait si on a une entorse? Parce que parfois, moi j'ai des douleurs après le ski.
Exactement,
mais bon,
donc évidemment, vous tombez ou vous faites un faux mouvement, vous entendez parfois un craquement, c'est
ça,
mauvais
c'est
signe.
Pas bon signe, ouais.
Vous avez la sensation de ce genou qui se dérobe, comme s'il se déboîtait, qui revient à sa place.
Et puis, j'ai mal déjà, rien que
oui, on a un genou qui gonfle, il y a de l'épanchement et l'articulation est douloureuse, le genou est instable, on a du mal à marcher, on boite, on ne peut pas fléchir la jambe. Tout ça, c'est les signes d'entorse. Et à ce moment-là...
Bah, qu'est-ce qu'on fait, justement?
Bah, on arrête de skier.
Bah oui, je crois que c'est
souvent,
la base,
on a envie de profiter, d'aller au bout de l'activité.
Mais non.
Or, si vous sollicitez une articulation qui souffre, ça va être encore pire. Donc, il faut s'arrêter de skier. Essayez de refroidir le genou en mettant de la glace. Non pas directement sur la
montagne,
peau.
C'est pas un problème, on prend un peu de neige.
Un peu de neige, mais pas directement sur la peau. Ah. Vous protégez, sinon il y a un risque de brûlure. On surélève la jambe, car vous allez avoir de l'œdème et il faut le faire relever. Et essayez de prendre des anti-inflammatoires si vous n'avez pas de contre-indication et si vous les supportez. Et puis consultez un médecin à ce moment-là.
Il c'est quand même mieux. Ouais.
Des radios, une immobilisation et pas forcément l'IRM. Je vois souvent des gens demander des IRM pour une entorse du genou. C'est dans les entorses
nécessaire.
Graves. On laisse souvent le genou refroidir durant 15 jours, on le réexamine et puis si nécessaire, on prescrit une IRM.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils très intéressants. Intéressant. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le nutritionniste Raphaël Grumman. Avec lui aujourd'hui, on vous dit tout sur l'intérêt et les dangers du sel.
15h, 16h,
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on va parler des dangers et même de l'intérêt du sel. On va y venir. Mais d'abord, rappelez-nous peut-être quand même ce que c'est finalement le sel. Parce que bon, moi, je le vois dans ma salière, hein, sur la table. Mais ça veut dire, c'est quoi du sel en fait?
En fait, c'est du chlorure de sodium. C'est-à-dire que ce sont deux minéraux qui se sont liés et qui vont apporter une saveur particulière aux aliments. Mais c'est aussi, sont aussi des minéraux qui sont présents naturellement dans le corps et qui sont indispensables à la fonction vitale.
On est salé, je suis salé moi à l'intérieur.
Exactement,
c'est ça,
vous avez des minéraux qui vous constituent et qui permettent de réguler les fluides à l'intérieur de votre corps.
D'accord. Justement, j'allais vous dire, ce sel, bon, on s'en méfie beaucoup, on en parle beaucoup ces derniers temps, comme le sucre, on a l'impression que c'est les ennemis en ce moment de notre assiette. Mais il faut quand même rappeler qu'il nous est vraiment indispensable hein, pour qu'on soit en bonne santé, hein, c'est ça ?
C'est ça, à contrario du sucre qui, lui, est vraiment uniquement pour le plaisir, donc qui n'a aucune fonction vitale à l'organisme, le sel, lui, est vraiment indispensable et sans sel, on ne peut pas vivre.
Il sert à quoi concrètement le sel dans l'eau ? Donc c'est pour vous dire, pour le bon hein, aussi, avoir suffisamment d'eau, enfin les rapports hydriques dans
c'est
l'eau.
C'est ça, ça permet de retenir l'eau dans le corps et donc ça permet en fait de bien équilibrer son hydratation.
Jimmy ?
Et naturellement, on a du sel dans certains aliments, comme des légumes en fait.
Oui, oui, bien sûr, on a le sodium qui est naturellement présent dans les légumes, qui ne vont pas pour autant avoir un goût salé, mais qui font partie de la constitution des minéraux, des fruits et des légumes. Mais
on va avoir fruits du sel aussi ?
Ben, on en a un tout petit peu de sodium, et on va avoir bien sûr d'autres minéraux présents dans le sodium, présents dans les fruits et les légumes, comme le chrome ou d'autres minéraux, et qui constituent la base de tout aliment.
Et le problème donc du sel, quand même, ça on l'a dit, c'est que malgré tout, vous avez dit, bon, on en a en nous, il y en a dans les aliments naturellement, mais on en consomme trop, ça.
Alors,
c'est sûr.
C'est ça le problème.
Il y a des chiffres qui le prouvent.
On en a dans les aliments naturellement, et c'est important d'en avoir, mais aujourd'hui notre consommation qui est liée en fait à une surconsommation de produits industriels nous apporte trop de sel parce que au-delà de cet équilibre osmotique, c'est-à-dire l'équilibre des fluides dans l'organisme, ça apporte aussi une appétence aux produits. Donc c'est pour ça que les industriels vont avoir tendance à surdoser les teneurs en sel de leurs produits.
On en parlera après des pourquoi ils en mettent autant, mais juste combien de sel il faudrait consommer en réalité et combien on consomme finalement aujourd'hui ?
L'OMS recommande aujourd'hui à peu près 5 à 6 grammes de sel par jour, à ne pas dépasser. Mmh. Et aujourd'hui, notre consommation moyenne est entre 10 et 12 grammes, donc quasiment deux fois plus.
C'est énorme quand même, on fait un gros dépassement
trop.
Là.
Malheureusement, hein, c'est trop.
Et du coup, on a toujours consommé du sel comme ça ou c'est assez récent, ça, d'en consommer autant ?
Ben non, en fait, c'est venu avec l'ère de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, on n'en consommait pas autant. C'est venu petit à petit et ça a été vraiment un problème à partir des années 70.
Raphaël Grumman, on n'a évidemment pas terminé. On se retrouve dans un court instant pour votre émission Santé Bien-être. Mais juste avant, je vous laisse avec la chanteuse Jeanne Hadid et son titre Mutate.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman. Alors Raphaël, on parle du sel avec vous aujourd'hui. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on en consommait trop aujourd'hui. Mais c'est quoi la conséquence finalement ? Manger trop de sel, c'est quoi le problème pour la santé ?
Alors le vrai problème en fait, c'est l'hypertension artérielle. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle en France. C'est pratiquement un adulte sur trois.
Ah oui, c'est énorme.
Donc c'est quand même important. On va avoir, donc ça c'est le plus gros des problèmes, le principal, c'est-à-dire qu'on va avoir des troubles cardiovasculaires qui vont découler de cette hypertension. Mais on a aussi d'autres troubles qui sont un peu plus mineurs. Je pense à la rétention d'eau, qui est encore plus présente chez les femmes.
C'est les jambes qui ont, c'est-à-dire qu'on va capter
les liquides, capter l'eau, et qui vont se déposer plutôt sur les membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau des jambes. Donc on va avoir à la fin de la journée les jambes qui gonflent, les pieds qui gonflent, et c'est un confort permanent.
D'accord. Et comment on peut évaluer tout seul ? Donc, parce qu'on dit on en consomme trop, d'accord. Bon, ça, c'est des études générales. Mais moi, au quotidien, comment je peux savoir si je consomme trop de sel ? Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent me dire « Attention, Mélanie, là, tu abuses un peu de la salière ».
Ça pourrait être, par exemple, l'envie de boire en permanence. C'est ça, ça peut être un des premiers symptômes d'une surconsommation de sel. Donc, tout le temps avoir la bouche sèche et avoir besoin de s'hydrater en permanence. Ça, c'est la première des... premier des signes. Deuxième, ça pourrait être la rétention d'eau dont on parlait. Mmh. Après, vous pouvez le doser aussi au niveau des bilans sanguins et le voir si vous avez une teneur, notamment en sodium, qui peut être un peu trop élevée.
On peut demander une prise de sang comme ça pour voir si on est
ça peut se faire. Ça se fait très rarement.
Ouais,
franchement,
on peut dire la vérité.
On
ne
fait pas vraiment, mais il y a d'autres symptômes, notamment les rétentions d'eau.
Jimmy ?
Et pour les os, ça semble un peu difficile à comprendre. Le sel serait mauvais en plus.
En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un déséquilibre au niveau des minéraux dans l'organisme. Vous savez que le calcium qui se fixe sur les os pour former cette ossature, le déséquilibre entre le sodium et le calcium va être perturbé par une surconsommation de sodium et va en fait finalement déminéraliser les os. C'est-à-dire qu'on va, pour équilibrer ces apports de minéraux, on va prélever le calcium qui est déposé dans les os. Et donc, on risque effectivement une déminéralisation, ce qui génère plus tard de l'ostéoporose.
D'accord. Et ces risques dont vous parlez, la rétention d'eau, enfin les problèmes cardiovasculaires, etc., et les os même, ce que vous venez de dire, c'est valable que pour les adultes quand on consomme trop de sel, ou même les enfants aussi doivent faire attention?
Alors, en fait, c'est présent chez les adultes parce qu'en fait, c'est une surconsommation à long terme. Mais si on incite les enfants à consommer des produits bourrés de sel très jeunes, à l'âge adulte, ils vont continuer de consommer des produits bourrés de sel.
Mais ils ne vont pas avoir d'hypertension à 8 ans,
en fait, ils ont des artères qui sont très souples. Donc, on ne va pas avoir de problème d'hypertension chez l'enfant.
C'est
on
très lâche
chez l'adulte. Voilà.
Ouais,
en plus, l'hypertension, elle est souvent associée à d'autres facteurs de risque, le tabac, l'âge. La consommation d'alcool et autres conduites néfastes à l'organisme.
Mais en tout cas, les mauvaises habitudes en matière de sel, souvent, elles sont prises dès l'enfance. Les gamins qui se gaffent de chips, c'est déjà pas terrible.
Exactement.
Quoi.
En fait, finalement, c'est les parents qui vont donner l'exemple aux enfants en essayant de limiter au maximum la consommation de sel.
Jimmy ?
Je suis en pleine diversification alimentaire pour mon bébé de 8 mois. On est d'accord qu'on ne rajoute pas de sel, même si on a l'impression que les plats sont un peu fades.
Pour les bonnes purées maison que vous lui faites.
Exactement, hein, oui, parce qu'on fait tout maison, effectivement. Ça coûte moins cher en plus. Mais donc, on ne rajoute pas de sel pendant la diversification.
Non. Il faut savoir que votre enfant a un palais qui est plus fin que le vôtre. C'est-à-dire que...
Mais il est plus fort que vous, de toute façon, il est plus beau que vous.
Il tient de sa mère, c'est pour ça.
C'est ça, c'est sûr.
Donc si vous le trouvez fade, ça ne sera pas forcément le cas de votre enfant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rajouter de sel à la diversification. Il faut leur laisser finalement découvrir ça le plus tard possible. Et ils vont avoir comme ça le goût brut des produits, donc le vrai goût des légumes, des purées de légumes et des purées de fruits également.
Et à quel âge alors on peut introduire la salière entre guillemets chez les enfants?
En théorie, il faudrait jamais l'introduire. C'est-à-dire qu'il faudrait, si on commence à cuisiner pour toute la famille le même plat, c'est-à-dire saler à la cuisson et éviter de mettre la salière sur la table pour éviter ça. Donc on évite de mettre du sel pour les enfants.
Jamais. Bon, d'accord, très bien. Est-ce que ça rend accro le sel comme le sucre? Vous étiez venu nous en parler dans une précédente émission. Est-ce qu'on devient accro au sel?
Alors non, on ne devient pas accro, mais on s'habitue à un goût salé. C'est-à-dire que autant le sucre va avoir une addiction au niveau du cerveau, donc ça va vraiment agir pratiquement comme une drogue au niveau du cerveau et donc en permanence nous inciter à consommer du sucre, autant le goût salé est différent puisqu'en fait ça va se modifier au niveau du palais. Et si on est habitué à avoir un goût salé, systématiquement on va essayer de se rapprocher de ça. Mais on ne va pas pour autant en rêver.
Oui, c'est vrai qu'on rêve rarement qu'on mange des chips, quoi. Moi, je mange des barres chocolatées, des choses comme ça.
C'est ça, donc on n'en rêve pas forcément d'avoir un goût salé. Mais ça, c'est une habitude finalement qu'on prend.
Raphaël Grumman, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler du sel et de ses dangers pour notre santé. Mais surtout, on va vous donner plein d'astuces en cuisine à appliquer chez vous dès le dîner ce soir. Vous allez voir, en choisissant les bonnes épices, les bonnes herbes, on peut presque ranger définitivement la salière. On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le nutritionniste Raphaël Grumman. Alors Raphaël, on va passer maintenant dans notre assiette, dans notre caddie même, au supermarché ou chez les commerçants. D'abord, quels sont les aliments les plus salés finalement qu'on a tendance à consommer beaucoup, hein? Le pain par exemple, je crois que c'est très salé.
Alors le pain contient du sel, ça fait partie de sa composition de base. Et tous les produits de panification, donc le pain, les biscottes, tous ces produits vont contenir beaucoup de sel.
C'est très salé même, hein?
C'est assez salé, effectivement. Alors, ça reste un produit d'alimentation courante. Donc, si on consomme du pain, on va essayer de faire attention sur d'autres produits qui sont finalement où on peut trouver d'autres produits qui contiennent moins de sel.
Mais les biscottes, c'est pareil. Il y a aussi beaucoup de sel dedans. Moi, je pensais que c'était assez light en tout. En fait, c'est sec, la biscotte.
Autant
pour moi, il n'y a rien dedans.
Il y en a autant que dans du pain. D'ailleurs, il vaut mieux consommer du pain que des biscottes.
Ah, pourquoi?
Parce qu'en finalement, juste un petit aparté, mais les biscottes sont déshydratées, donc calent beaucoup moins que le pain. Donc, vaut mieux consommer du pain que des biscottes.
C'est dingue parce que moi, je pensais que c'était vraiment meilleur pour la ligne, par exemple, les biscottes.
Ah non, la biscotte, finalement, est beaucoup plus concentrée en calories que le pain.
Je vais reprendre du pain alors.
Vaut mieux manger du pain.
D'accord, très bien. On en prescrit d'ailleurs, on parlait du pain, on reste un tout petit peu sur le pain. À une époque, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient à la boulangerie du pain sans sel. Ouais. Ça se fait de moins en moins. Vous, les nutritionnistes, vous en prescrivez moins.
Non, ça n'existe quasiment plus. Nous, on propose plus ce type de recommandations nutritionnelles. Donc, les régimes sans sel, c'est fini. D'ailleurs, vous allez dans une boulangerie, vous demandez un pain sans sel, vous n'en trouverez jamais. Ou très rarement, plutôt. Parce que finalement, on a adapté nos recommandations sur l'hygiène de vie globale. C'est-à-dire qu'on n'est plus porté sur le zéro sel, on est sur une consommation de sel modérée, restreinte, mais avec une activité physique, une consommation d'eau. Donc nos recommandations, elles portent beaucoup sur l'hygiène de vie globale.
Général, d'accord. Jimmy ?
Chose assez bizarre, il y a du sel dans les biscuits industriels. Pourquoi est-ce qu'ils en rajoutent ?
Pareil pour l'appétence. En fait, les biscuits industriels, donc les biscuits sucrés, on entend bien...
Pour les goûter pour les enfants,
pour
quoi,
les
par
enfants,
exemple.
D'ailleurs, bien
pour
sûr.
Les adultes aussi, parce que...
Oui, aussi.
Il y en a souvent chez moi. Ben, c'est pas... D'ailleurs, j'en mange plus, je crois, que mes enfants. Bon, bref, les biscuits, mais... pourquoi il y a du sel, ouais.
Ben, en fait, c'est pour augmenter l'appétence. Et puis, ça fait aussi partie de la recette, parce que quand on prend des petits sablés, des biscuits au beurre, des choses comme ça, qui vont contenir naturellement du sel, mais on va en plus en rajouter dans les produits industriels pour augmenter cette appétence. Parce qu'on sait que le sel, bah, c'est quelque chose qui est plaisant et qui va donner envie d'en consommer plus.
J'ai une éclair de génie. Je me dis, pourquoi je mets du sel dans mes crêpes, par exemple? Je mets toujours du sel. C'est vrai, c'est pas nécessaire, en fait, non, a priori.
Non,
a priori. Mais dans ma recette, il y a écrit sel. Alors,
une pincée de sel, c'est vrai. C'est
je
ce
mets
met
du sel dans la pâte à crêpes.
Ouais, oui, mais pas, vous n'êtes pas obligé de prendre la pâte à crêpes, vos crêpes, parce qu'elles sont si bonnes sans.
Ah bah, je vais changer ça tout de suite. Alors, très bien. Dans les conserves qu'on peut acheter, pareil, en supermarché, il y a du sel beaucoup ou pas? Pas plus que ça,
pas
non?
Pas plus que ça. Dans les conserves, il n'y a pas trop de sel, parce que finalement, avant, on utilisait le sel comme moyen de conservation.
J'allais vous dire, on a quand même très longtemps conservé la viande, etc., pour des raisons à la fois de bactéries, et puis parce
bien
que
sûr,
ça conserve bien le sel.
Ça,
hein.
C'était un moyen de conservation. Quand on n'avait pas le froid à l'époque, on conservait grâce au sel. Donc on salait tous les produits, la viande, les poissons, pour les conserver. Aujourd'hui, on a d'autres moyens de conservation, notamment le froid, parce qu'on a on a un réfrigérateur à la maison,
bien
des
sûr.
Choses comme ça pour conserver les produits.
Mais les conserves,
pour les conserves
achète, ouais.
Aujourd'hui, elles sont apertisées, c'est-à-dire qu'elles vont être portées à très haute température sur un moment très court pour détruire toutes les bactéries, ce qui permet une conservation longue de ces types de produits. Bon. Donc le sel n'est pas un moyen de conserver dans les conserves.
Jimmy ?
Même pour les charcuteries, le sel sert à rien. Et qu'est-ce qu'on pense des charcuteries où il y a marqué moins 25% de sel? Est-ce que c'est bien?
Alors ça, c'est bien. Les charcuteries allégées en sel sont...
Type le jambon blanc, on le voit beaucoup sur les emballages maintenant. Ce ne sera pas de marque où il y a écrit en tout cas, il y a deux jambons à côté, il y en a un où il y a moins de sel. Celui-là, il vaut mieux l'acheter?
Celui-là, il vaut mieux le consommer. Ça fait partie des progrès nutritionnels plus ou moins imposés aux marques agroalimentaires par le gouvernement. Donc, ces sociétés s'engagent à apporter une amélioration sur leurs produits, une diminution de sel, diminution de sucre, augmenter les apports de fibres. Donc, c'est vrai pour les céréales, ça va être vrai pour la charcuterie, on va diminuer les apports de sel, puisque finalement, dans la charcuterie, ce qui est le plus mauvais, c'est la consommation de sel. Donc, en diminuant cette consommation de sel, bah, ça devient un produit qu'on peut consommer évidemment plus couramment aussi.
Donc nous, clairement, au supermarché, entre deux jambons, on prend celui qui est estampillé moins 25%
sans
de sel.
Sans hésiter d'ailleurs.
Si pour les enfants, par exemple, ils en consomment pas mal, les enfants.
Mais même si vous goûtez en plus au niveau du goût purement gustatif, il n'y a pas beaucoup de différence.
Je vous avoue,
finalement.
Moi, c'est vrai que je l'achète maintenant, parce que moi, quand je vois moins d'antibiotiques, moins de sel, moins de tout, je prends toujours ce qu'il y a moins de trucs. Et c'est vrai que je ne vois pas la différence gustativement
parlant. Ils vont travailler la recette différemment avec
d'autres épices, d'autres arômes. J'espère qu'ils ne vont pas rajouter autre chose qui ne soit pas bon. Mais
non,
bon.
Non, c'est plus, ils vont travailler la recette sur les arômes et les épices pour compenser justement cette absence de sel ou cette diminution de sel.
D'ailleurs, sur les produits industriels, comment le consommateur s'y retrouve? Il y a rarement écrit sel derrière. Il y a écrit quoi? Qu'il faut aller regarder?
Alors, sur les valeurs nutritionnelles du produit, au dos du produit, vous allez avoir soit teneur en sel, soit teneur en sodium.
C'est ça qu'il faut aller regarder.
C'est
pour
ça qu'il
voir
faut aller regarder
le sel.
Et évidemment, essayer à produit équivalent de regarder celui qui contient le moins de sel.
Mais le sodium, ce n'est pas le sel. Quand on l'a en sodium, je crois qu'il faut multiplier après pour avoir un peu la teneur
Alors,
en sel.
Hein,
je crois que c'est 2,5 qu'il faut multiplier par 2,7 pour avoir...
C'est exactement ça, pour avoir la teneur en sodium. Quelquefois, ce n'est pas toujours très clair, mais c'est le problème des étiquetages nutritionnels qui sont vraiment tous différents en fonction des produits. Généralement, si vous voulez vraiment regarder, c'est le sodium ou le sel et vous essayez de regarder ceux qui contiennent le moins de sodium et le moins de sel.
Donc on prend plusieurs produits, on prend celui qui
Exactement.
Est le moins riche. Très bien. Alors justement, pour se faire une idée de la quantité parfois énorme de sel qu'on va prendre, un exemple dans un plat préparé. Par exemple, une blanquette de veau toute prête, le plat préféré du docteur Jimmy Mohamed. Il y a combien de sel?
Il y a quasiment la moitié des apports recommandés par jour. C'est-à-dire sur un produit industriel, un plat préparé, vous allez avoir quasiment la moitié.
Vous imaginez votre blanquette, Jimmy, prête là ?
Quelle erreur je commets à chaque fois.
Donc, si le reste de la journée, vous êtes très vigilant sur vos apports en sel...
Non, là, c'est pas le cas, non, je vous assure. La blanquette de veau n'est qu'une entrée, donc après, on est catastrophique.
Mais, voilà,
mais c'est bien
peut...
de
Surtout
de
si vous en consommez tous les jours.
Ouais, donc
c'est la fréquence qui
faut changer. Parfois, c'est la brandade.
Ou le couscous, ça aussi. Hein, voilà. Et autre astuce, apparemment, il ne faudrait pas saler après la cuisson, mais pendant. Pourquoi?
En fait, quand vous allez saler pendant la cuisson, finalement, on va avoir moins de sel au total. Pourquoi ? Parce que quand vous allez saler pendant la cuisson, le sel va s'homogénéiser dans le produit, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans le produit, la viande, le poisson, et donc être beaucoup plus homogène. Quand vous allez saler après cuisson dans votre assiette, le sel va venir recouvrir l'aliment. Et donc, en fait, cet enrobage, vous allez devoir en mettre plus pour avoir la même saveur. Donc, c'est pour ça qu'on recommande systématiquement le fait de saler pendant la cuisson.
D'accord. Et saler l'eau des pâtes, ça sert à quelque chose ou pas ? Parce que moi, mon mari fait toujours ça, mais je ne sais pas si c'est...
Et moi, je le fais aussi.
Et c'est bien ?
Et oui. Bah, c'est mieux parce que ça vous évite de rajouter du sel après la cuisson.
Moi, j'en mets quand même après. Parce que je trouve que ça ne sale pas, justement, même malgré si...
Alors après, peut-être qu'il n'en met pas suffisamment pour
avoir ça. Va, ça mais... pas mal.
Ou alors, tout simplement, vous êtes habitué à avoir un goût salé
moi,
en permanence.
J'adore le sel. C'est vrai
donc,
que c'est...
Après, ça se travaille aussi. Vous pouvez petit à petit essayer de réduire un petit peu.
Bah, je peux pas tout faire. Hein. J'ai arrêté de fumer.
Oui, bon, d'accord.
Non, c'est bon.
Des priorités.
Le dry January. Ouais,
j'avais
dernier,
fait ça en janvier. Ouais, non, c'est bon. Je vais pas tout faire en même temps. On va garder un peu de sel. Donc vous disiez l'eau, on sale à la cuisson et pas après.
Oui.
Ça veut dire que la salière, finalement, on n'en a pas tellement besoin sur la table. Alors pour la blanquette de veau qu'il aurait cuisinée pour une fois maison, Jimmy, après, il ne faut pas la ressaler à table.
Ben, c'est mieux. Alors, si vous ne mettez pas la salière, en plus, je ne suis pas sûr que vous y penserez forcément. Peut-être que le fait de voir la salière sur la table, vous allez avoir tendance à ressaler
en
systématiquement.
En France, tout le monde a une salière sur la table. Enfin, souvent, quand même.
Oui, mais est-ce que c'est un bon...
Non, on ne devrait pas, en fait.
Ben, je ne suis pas sûr que ce soit un bon réflexe d'avoir la salière sur la table.
Chez vous, il n'y en a pas ? Pas sur la table ?
Si.
Ah non, là, c'est le nutritionniste qui nous le dit.
Mais
on est bien.
Mal chaussées,
Jimmy, vous avez une salière à la maison sur la table ?
Non, justement, on fait en sorte de ne pas la voir pour éviter qu'elle soit à portée de main. Et si vraiment on se dit le plat manque de sel, eh ben, on va remettre une petite poignée. Mais vraiment, on évite ce geste. Ouais. Parce qu'après, les enfants vont aussi copier ce réflexe en disant bah, « Nous, on met du ketchup, bah, je mets du ketchup. La salière, ils vont avoir le même réflexe. » Donc, on essaie de la mettre de côté.
Et le fait de laisser dans le placard aussi, il faut avoir l'effort d'aller chercher la salière dans le placard. Donc, on ne le fait pas forcément. Donc, au final, ça permet quand même de réduire sa teneur en sel.
Bon, donc on la laisse juste à côté de la plaque de cuisson. Ouais.
Et si on veut, parce qu'on dit que le sel donne du goût, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le remplacer par d'autres épices pour peut-être essayer de donner ce goût qui nous manque ?
Ça, c'est
si,
le
bien sûr.
Truc. Hein,
ça, c'est
crois,
ça. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, utiliser les épices, les aromates, les herbes aromatiques, c'est une très très bonne idée justement pour relever le goût des aliments. Surtout si vous, Mélanie, par exemple, vous avez ce besoin d'avoir des aliments salés.
Ouais,
si
vous m'avez bien cerné, je crois.
Compensé par justement d'autres épices, vous pouvez mettre du curcuma, du cumin, puis du persil, des oignons, des échalotes. Ça va apporter vraiment du relief au plat et ça va éviter d'avoir à rajouter trop de sel en conséquence.
Il y a des fois où vraiment il n'y a même pas besoin de saler tellement c'est goûtu, quoi, je veux dire, par ce biais des épices, des herbes. Ouais, c'est vraiment...
Ah, bien sûr, bah, vous avez plein de plats aujourd'hui qui sont quand même naturellement relevés où vous pouvez ajouter juste... Vraiment la petite touche qui fait que vous allez avoir quelque chose qui va bah, vous éviter de mettre du sel en plus.
Mais moi j'ai tellement l'impression qu'on est obligé de saler. On fait un plat mijoté, ben il y a du sel et du poivre quoi. Mais non,
bah oui,
c'est une mauvaise habitude. Ouais.
Et puis vous pouvez rajouter d'autres choses, notamment les herbes aromatiques. Je pense par exemple la coriandre, qui est une herbe qui apporte énormément de saveur. Qui nécessite pas forcément d'ajouter des concentrations en sel trop importantes.
J'allais vous demander, c'est lesquelles les épices, vos épices chouchous peut-être à vous, qui peut-être d'ailleurs ont d'autres propriétés au-delà du fait qu'elles sont exhausteurs de goût.
Moi j'aime bien le curcuma parce qu'il a plusieurs propriétés. Donc déjà il a une valeur culinaire importante, c'est-à-dire qu'il a une saveur bien particulière, assez prononcée. Ça apporte de la couleur au plat, cette couleur assez orangée. Et en plus,
c'est bon pour la santé.
Exactement,
parce qu'en
fait,
c'est
un anti-inflammatoire très puissant. D'ailleurs, on trouve aujourd'hui des gélules de curcuma à absorber comme ça, mais on peut tout simplement mettre une épice, cette épice-là, dans les plats, dans les salades.
Vous en mettez dans quoi, du curcuma ?
Moi, je le mets avec du poisson, je le mets avec des pâtes, par exemple. Je le mets quand je fais des tomates grillées à la poêle, je peux mettre un peu de curcuma, ça va relever encore plus le goût des tomates.
Il y en a d'autres que vous aimez bien dans les épices ? Curcuma, ok.
Moi, j'aime bien le gingembre aussi.
Ah, c'est bon, le gingembre, c'est vrai.
Parce que du coup, ça relève aussi, ça donne un petit côté un peu pimenté au plat. Ça va très bien avec les fruits de mer, avec les Saint-Jacques, avec du poisson blanc, parce que ça va donner justement pour le poisson blanc qui est peut-être un peu plus
fade. Le poisson,
fade,
c'est un peu salé en plus, naturellement. Ah, donc,
exactement. Donc, on a juste à rajouter un peu de gingembre, mais tout de suite, ça va apporter un petit peu de goût au produit.
Jimmy, vous avez une épice préférée, vous ?
Non, mais on parle de sel, mais on ne dit pas quel type de sel acheter, parce que souvent, au supermarché, on ne sait pas lequel. On a plein de prix différents. De la
sel
fleur
gris,
de sel,
du blanc,
ouais, exactement,
du gros, ouais.
À des prix qui vont du simple au triple, voire quadruple. Comment choisir un bon sel ?
Bah en fait, je pense qu'il faut avoir deux sels à la maison. Un sel pour la cuisson, c'est-à-dire quand vous allez cuire vos pâtes, vous allez pouvoir juste mettre du gros sel, hein, pas besoin d'avoir un sel spécifique. Et peut-être que pour la table, un sel fin ou un sel type sel de Guérande, par exemple, qui a un sel un petit peu plus épais, un petit peu plus gros, mais qui va aussi apporter un peu de... un peu de texture à un plat. Quelquefois, on aime bien avoir un petit peu de fleurs de sel sur un plat. Ça donne aussi ce côté présentation au niveau du plat, donc un petit peu plus d'appétence.
Alors pour terminer, peut-être juste un mot sur les sauces toutes prêtes, notamment soja, les vinaigrettes, tout ça, ça c'est très salé. Hein.
Alors les sauces industrielles sont très salées. Je pense aux vinaigrettes industrielles, ça il faut vraiment éviter, surtout si on cherche à faire attention à sa teneur en sel. La sauce soja, on le sait puisque ça a un goût qui est très salé.
Voilà, oui, c'est clair.
Et encore plus si on prend la sauce soja sucrée qui du coup rajoute en plus du sucre. C'est-à-dire qu'on ne va pas diminuer la concentration de sel, mais on va avoir aussi la concentration de sucre en plus. Bon. Et même sur les sauces soja, on a aussi la sauce soja qui est allégée en sel maintenant.
Mais oui, c'est vrai, c'est mieux donc ça.
Donc il vaut mieux prendre celle-là si vous voulez faire des sushis par exemple.
Mon conseil, c'est que tout ce qui est brut, c'est mieux quoi. Finalement, tout ce qui est transformé, c'est moins bien.
Vaut mieux le fait maison.
Merci beaucoup Raphaël Grimman d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a compris qu'avec quelques astuces, on peut aisément se passer de la salière au quotidien. En tout cas, la salière, c'est sûr, on l'a compris. Jimmy, vous l'avez noté, ça n'a rien à faire sur la table de façon automatique. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la ponction lombaire, un geste médical assez redouté quand on doit le subir soi ou un proche. Alors, dans 100 rendez-vous, on vous explique comment cela se passe et bien sûr, à quoi ça sert. A tout de suite sur Europe 1.
100 rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h, avec côté évidemment, comme tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la ponction lombaire. Savez-vous en quoi consiste précisément ce geste médical redouté? Ça se passe au niveau du dos, mais où précisément? À quoi ça sert? Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
C'est un prélèvement, une ponction lombaire.
Généralement, ils enfoncent une grande aiguille, je crois, et ils retirent un peu de... C'est au niveau de la moelle épinière, je pense que c'est ça.
Du liquide qui se crée lors d'une hernie discale, je crois, pour déceler différentes maladies liées à la moelle osseuse.
Avec une seringue, mais une grosse seringue, une lombaire, c'est, je pense, au niveau des lombaires, du coup.
C'est dans le dos, je pense, et c'est au niveau de la colonne vertébrale, quoi.
Ça doit faire extrêmement mal, je sais pas, mais je pense que oui.
Oui, à mon avis, oui, ça doit faire très mal, oui. Il doit y avoir une anesthésie locale pour la peau et peut-être éventuellement sous épidurale.
Je pense que maintenant, à l'époque où on vit, il doit faire des anesthésies locales. Donc je ne pense pas qu'on doit sentir quelque chose.
Alors Jimmy, un point à présent sur la ponction lombaire. Moi, j'en ai vu une fois réalisée sur un proche et je dois avouer que c'est quand même assez impressionnant. C'est quoi précisément ce geste médical?
Alors la ponction lombaire, pardon, ça consiste à introduire une aiguille qui est très très fine, je vous rassure, entre les vertèbres situées donc dans la partie basse du dos. Ça sert à prélever du liquide céphalo-rachidien ou éventuellement d'injecter un produit ou de faire un traitement. Pour éviter de toucher la moelle, on le fait dans une zone où il n'y a plus de moelle. La moelle se termine à la racine L1, c'est-à-dire la première vertèbre lombaire. Donc on va piquer en dessous de L1.
Donc vraiment dans le bas du dos.
C'est-à-dire entre soit la troisième et la quatrième vertèbre ou entre la quatrième et cinquième vertèbre, zone où il n'y a plus de moelle.
Bon, pour les gens qui n'imaginent pas trop les vertèbres, les lombaires, tout ça, ça se passe vraiment très bas dans le dos. Hein,
il n'y a plus de moelle parce que souvent on pense que si on fait une ponction lombaire, on va vous paralyser puisqu'on va toucher la moelle.
C'est pour ça qu'on a peur, tout ce qui touche au dos, ça fait toujours un petit peu peur.
Mais il n'y a pas de moelle à cet endroit-là.
D'accord, donc il n'y a pas de problème. Alors rappelez quand même à nos auditeurs, vous avez dit que c'était pour prélever du liquide céphalo-rachidien. C'est quoi ce liquide?
Alors c'est un liquide qui circule dans le système nerveux central et autour du système nerveux central qui entoure les méninges et qu'on retrouve aussi au niveau de la colonne, au niveau des méninges, et ça permet d'amortir les chocs, en particulier lors des mouvements. À titre d'exemple, le cerveau, lorsque vous le posez sur une table, il pèse 1,5 kg.
Je le fais rarement, mais je ne pose pas trop mon cerveau sur la table. Mais
voilà. Si vous le faites, ça pèse 1,5 kg. Mais entouré de ce liquide céphalo-rachidien, le cerveau ne pèse plus que 50 grammes.
Ah, ça
l'allège. Très léger.
D'accord, c'est comme
une fonction
petit coussin.
Exactement, barrière mécanique, mais aussi chimique, puisque c'est une enveloppe où finalement les bactéries ne parviennent pas. C'est un liquide qui doit être stérile. Il sert aussi au transport d'eau et de différents ions, comme le sodium, le potassium et des protéines. Et il est fabriqué au niveau du cerveau. Il se renouvelle 3 fois par jour. Et il circule, comme je vous l'ai dit, jusqu'en bas de la colonne vertébrale.
Alors, on va revenir quand même sur le sujet du départ. Donc, la ponction lombaire. D'abord, pourquoi on peut la prescrire à quelqu'un?
Alors, le plus souvent, c'est dans les services d'urgence. Ça se fait lorsqu'on suspecte une méningite. C'est maux de tête accompagnés de température, avec une personne qui va vomir en jet, qui va être prostrée. C'est ça le tableau de la méningite. Donc, lorsqu'on suspecte une méningite, on en fait. Mais aussi, on peut le faire dans d'autres cas. L'hémorragie méningée, lorsque vous avez des céphalées, des maux de tête d'apparition brutale et que le scanner ne révèle rien, on fait une ponction lombaire pour voir s'il y a des signes d'hémorragie, si on retrouve un peu de sang dans le liquide céphalo-rachidien.
Pour certains cancers.
Exactement,
aussi,
certains cancers, certaines maladies neurologiques comme la sclérose en plaques. Et puis parfois, lorsqu'on a trop de liquide céphalo-rachidien, l'hydrocéphalie, on en prélève pour retirer cette pression et soulager le malade.
D'accord, alors pour finir quand même, expliquez-nous rapidement comment ça se passe l'acte en lui-même.
L'acte est très impressionnant, mais en règle générale, ça se passe plutôt bien. Ça peut se faire de deux façons. Soit on est assis.
C'est court, hein, c'est 5-10 minutes hein,
maximum,
pour une ponction lombaire.
Maximum, quand ça se passe bien et qu'on arrive à le faire correctement. On est assis, on fait le dos rond pour libérer l'espace entre deux vertèbres.
Comme quand on nous pose une péridurale,
exactement.
Finalement, pour accoucher.
On a les jambes qui sont pendantes au bord du lit. Ou finalement, on peut être aussi allongé sur le côté, en chien de fusil. On désinfecte la zone, donc
évidemment.
On nettoie parce que ça doit être stérile. On repère avec les doigts du médecin la zone où on va piquer entre deux épineux, c'est-à-dire entre deux espaces. On introduit une petite aiguille une fois qu'on a mis un petit produit anesthésant pour calmer un peu la douleur. On va retirer petit à petit un mandrin, c'est une tige amovible, pour voir si le liquide coule. On prélève le nombre de gouttes suffisant et on ne va pas trop loin, donc pas de panique, on ne va rien percer. Et puis on envoie ensuite les tubes au laboratoire pour analyse. Et puis en règle générale, on reste une heure allongé pour éviter d'avoir un syndrome post-ponction lombaire qui donne des maux de tête.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez, car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de masturbation. Pourquoi certaines personnes y trouvent parfois plus de plaisir que dans les relations sexuelles avec leur conjoint? Catherine Blanc, notre sexologue, nous donnera quelques explications, bien sûr. Mais juste avant, je vous laisse avec le chanteur Lewis Capaldi et son titre « Someone You Loved ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui arrive à l'instant dans le studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Lionel. Je vous la lis. Je ne comprends pas pourquoi je connais de merveilleuses jouissances lorsque je me masturbe, alors que dans le cadre de la relation, je n'y parviens pas. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, c'est logique d'avoir plus de plaisir seul plutôt qu'à deux, et en l'occurrence là chez un homme?
C'est logique, oui, parce qu'il n'y a pas d'enjeu relationnel. Donc, évidemment que ce qui se joue dans la mécanique de savoir comment se toucher, se masturber, se caresser, explorer de longue date depuis son enfance, peut être un moment tellement délicieux qu'il est difficile d'y faire rentrer quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre puisse être du même rendez-vous. Il est perturbateur ou il oblige à ce qu'on s'occupe de lui ou d'elle et ça change complètement le rapport à soi.
Tout simplement parce qu'il connaît mieux son corps que sa partenaire le connaît. Lui vit avec depuis tout petit, comme vous avez dit.
C'est pas tellement parce que sa partenaire ou son partenaire ne le connaît pas suffisamment bien par rapport à ce qu'il connaît de lui-même. C'est que dans la masturbation, c'est une histoire entre moi et moi. Mon fantasme n'est que porté par ça. Il n'y a pas d'enjeu avec l'autre. Donc la partenaire peut avoir tous les gestes, toutes les attentions les plus délicieuses. Il faut faire avec une autre main que la sienne. Il faut faire avec un autre corps que le sien, et on n'a pas toujours envie de faire avec le corps de l'autre, et peut-être toute la difficulté. D'ailleurs, c'est cette fameuse phrase qui dit « la masturbation rend sourd ». Il est évident qu'elle ne rend pas sourd au sens des oreilles, mais qu'elle rend sourd à l'autre. C'est-à-dire, je suis tellement dans une préoccupation de moi avec moi, de connaissance
que
de moi-même.
Je ne t'entends plus, je ne t'écoute plus.
Et je ne fais plus rien avec toi de ce que tu pourrais me dire. Jimmy ?
Et peut-être qu'il est complexé, ou peut-être il assume un peu moins lorsqu'il est à deux, plutôt, alors que lorsqu'il est seul. Il est plus tranquille, personne ne le regarde, il peut faire ce qu'il veut, il va droit au but en quelque sorte.
C'est ça, il n'a pas de devoir à l'égard de l'autre. Donc il va effectivement au rythme de son excitation, peut-être très rapidement ou peut-être pendant trois plombes, mais pour lui-même seulement, sans qu'il y ait quelqu'un qui, de son point de vue, réclame quelque chose. Même si l'autre ne réclame pas, de son point de vue, il est redevable de quelque chose. Et ce qui peut rendre évidemment difficile la relation.
Est-ce que ça peut venir de sa copine finalement, ou de sa femme? Parce que là, il ne le dit pas d'ailleurs, donc je ne sais pas avec qui il est exactement, mais il dit que dans la relation, ça n'arrive pas. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez de désir pour la personne avec qui il est dans le lit, quoi?
Ça se peut aussi, bien sûr, mais là encore, on revient sur la même question, c'est est-ce que je donne de la valeur à la relation sexuelle pour la relation sexuelle, ou en fait, ce qui m'excite, c'est de me masturber et point barre.
C'est un peu triste ça, de se dire, moi je me masturbe et point barre, non?
Mais oui, mais c'est triste pour la relation, oui, parce que c'est ça quand même qui nous distingue les humains. Enfin, c'est que nous aimons vivre en communauté, nous aimons faire avec les autres, nous sommes interdépendants. Faire tout seul avec soi-même, ça montre une certaine défiance à l'égard de l'autre, ça peut raconter d'ailleurs des choses de l'enfance, hein, où on a du mal à accepter ce que l'autre nous apporte, et on préfère s'apporter tout seul pour ne pas être frustré ou pas être blessé.
Jimmy ?
Bon, là, je vais être un peu technique, mais bon.
Il est technique.
Parce que là, il dit, il parle de sa propre masturbation lorsqu'il est en couple. Mais il ne dit pas si c'est peut-être sa partenaire qui va le masturber. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de se masturber alors qu'on est dans un rapport sexuel avec quelqu'un, ou c'est quelque chose qui est, on va dire, fréquent et il ne faut pas être choqué de le faire ou de ne pas le faire?
Bah, moi, je pars du principe que le pénis appartient à qui il appartient. Et donc, c'est pas parce qu'on est en couple que tout d'un coup, il appartient au couple. Voilà. Donc c'est, ou, et pire encore, à la femme. Donc, de fait, je pense qu'un homme a la liberté de faire de son pénis bien ce qu'il veut. Et ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut réserver toute l'énergie sexuelle nécessaire à la relation, au titre du fait qu'il faut, combler madame. Voilà, ça n'a pas.
Parce que la masturbation n'est pas un passage obligatoire. On peut s'en passer, avoir
absolument
une relation sexuelle normale, épanouie, même s'il n'y a pas cet acte qui semble déranger. Donc finalement, qu'il fasse avec ou sans, c'est pas très grave.
Voilà, en fait, la masturbation n'est pas obligatoire, ni pour apprendre la sexualité, ni pour
se satisfaire de
quelque manière que ce soit. C'est un plaisir, un désir. On peut d'ailleurs se poser la question dès lors qu'on est un peu obsessionnel sur le sujet, parce que du coup, ça laisse peu de place à d'autres choses, que ce soit le boulot ou que ce soit la relation amoureuse. Ce peut être effectivement une façon de frustrer l'autre en prenant son plaisir pour ne pas le partager, pour pas le qu'il vienne de l'autre. Mais d'autres gens ne s'intéressent absolument pas à la masturbation et grandissent sans ou quasi pas.
Et à l'inverse, la masturbation peut parfois suffire à certains. Ça peut être épanouissant.
Eh bien, il y en a qui, pour que c'est pas nécessairement épanouissant du point de vue de la relation, mais de savoir qu'on a un corps et qu'on peut se faire du bien, pourquoi pas. Mais ça pose quand même la question si c'est une façon d'éliminer la relation à l'autre. Bien sûr, ça pose une question.
Bon, c'est presque un autre sujet. Merci beaucoup, absolument, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage, une équipée qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipée sauvage arrive et vous connaissez les vertus cardinales de notre émission, rire et éclectisme. Quoi de mieux que de recevoir aujourd'hui Daniel Picouli, un chantre de l'éclectisme qui vient nous parler de son émission sur France O et son arrivée sur France 3. Bonne émission en perspective, me souffle mon réalisateur décidément inspiré.
Merci Mathieu, je vous souhaite une bonne émission et vous restez sur Europe 1.